que ce livre est inspiré de Dieu. Moi, je suis convaincu. En fait, je base toute ma vie là-dessus. Et vous? C'est-à-dire que des fois, on lit les choses qu'on ne comprend pas, mais comme j'ai dit mercredi soir, dans la vie, il ne faut jamais interpréter la parole de Dieu dans la lumière de nos expériences. Il faut toujours interpréter nos expériences dans la lumière de sa parole. Pourquoi? Parce que nos expériences changent souvent. Nos circonstances changent souvent. Mais une chose que je sais, pas le livre, mais le contenu du livre est inspiré de Dieu. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que sa parole est établie pour toujours dans les cieux. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu est établi. Coulé en béton, mais plus que ça. Coulé en éternité. Personne ne peut enlever un seul mot. Personne ne peut enlever une seule pensée. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il veut dire. Amen. Alléluia. Je dis tout cela parce qu'on va aujourd'hui voir les choses dans la Bible. Et je veux que vous ouvriez votre cœur pour recevoir avec humilité la parole plantée dans votre cœur. Cette parole est comme une semence que si elle est reçue comme il faut dans votre cœur, elle va germer, elle va pousser et elle va porter du fruit. Mais si cette semence tombe sur un terre qui est dure, endurcie, il y a des oiseaux qui vont venir manger et on voit qu'est-ce qui se passe souvent. Dès que la parole est semée, le diable vient pour voler la parole. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les épines dans l'affaire de leur cœur. Ce sont les soucis de ce siècle, toutes sortes de choses qui vont étouffer la parole de Dieu pour qu'elle ne porte pas de fruits. Il y a d'autres personnes qui vont ce matin entendre le message de Amen, Amen, ouh, Alléluia, Alléluia. Mais dans le fond, leur cœur est comme pierreux. Et il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur. Et il y a des personnes qui vont entendre ces paroles et recevoir la parole avec joie. Ouh, oui, 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 oui. Mais dès que les tribulations viennent à cause de la parole, dès que les problèmes viennent, dès que les circonstances lèvent la tête en disant que, ah, est-ce que ça marche vraiment, ton affaire? Est-ce que la parole est vraiment vraie? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Dès que ces choses commencent à contredire qu'est-ce qu'on a entendu ce matin, les gens vont perdre courage et la parole ne va pas porter du fruit. Je dis la vérité, hein? C'est comme Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce que je veux et ma prière, c'est que ce matin, nous ayons les cœurs qui représentent la bonne terre, qui vont recevoir la parole de Dieu avec humilité, qui vont croire à la parole de Dieu. On ne va pas se laisser déranger par les autres choses. On ne va pas laisser les épines étouffer la parole. On ne va pas laisser les oiseaux manger la parole. On ne va pas laisser le soleil dessécher la parole, mais on va laisser pousser la parole pour voir les résultats. Amen. Et c'est pourquoi, tout ça juste pour quand même pré-introduction, on va faire notre déclaration. Prenez votre Bible. Si vous n'avez pas une Bible, prenez la feuille que je vous ai donnée, que vous avez reçue à la porte, qui contient les versets de la parole. On va faire cette déclaration. Voici ma Bible. Ça, c'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Malgré mes émotions. Malgré qu'est-ce que je vois. Malgré qu'est-ce que les autres disent. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Peu importe qu'est-ce que la tradition m'a dit ou la religion m'a enseigné. Toutes ces choses sont à moi. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Peu importe mes expériences du passé, peu importe qu'est-ce que j'ai vu chez les autres, tout ce qu'elle dit que je peux faire, je peux faire et je vais faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé au nom de Jésus. Alléluia! Et je pense qu'on peut rentrer et dire que, on a eu un bon temps à l'église ce matin, hein? Alléluia! Alléluia! Wow! Est-ce que vous ressentez l'onction de Dieu sur sa parole ce matin? Il est là. Il est là pour nous libérer ce matin. Et on continue ce matin, 8e message dans une série sur comment marcher dans la bénédiction de Dieu. Et c'est important qu'on a fait cette déclaration parce que je sais que l'ennemi va faire tout son possible de voler cette parole. C'est pourquoi on est sous nos gardes. On est prêt et on va dire non, on est de la bonne terre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir comment marcher dans la bénédiction d'une vie abondante. Et ce qu'on va faire pour commencer, on va lire en Galates chapitre 3, verset 13, notre texte clé, qui dit que Christ nous a rachetés. Est-ce que vous aimez Jésus? Moi, j'aime Jésus. Il a sauvé ma vie. Hallelujah. Oh, il m'a délivré. Je n'ai même pas pensé où je serais, qu'est-ce que je serais sans lui. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eux pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques semaines? C'est que Jésus lui-même, il a fait un échange. Il a pris ma place sur la croix. J'ai péché, mais il est devenu péché pour moi. J'ai été susceptible d'être malade, mais il est devenu maladie pour moi. Hein? J'ai été vraiment subi à toutes les conséquences du péché, souvent des manquements dans ma vie, mais Jésus s'est fait pauvre pour m'enrichir. Hein? C'est dans la Bible? Oui, on va voir ça ce matin. Hallelujah! Mais ici, c'est quelle bonne nouvelle! Il est devenu malédiction pour que je puisse être béni en lui. Et je suis béni. Est-ce que vous êtes béni? Hallelujah! Même si vous ne le savez pas, vous êtes béni si vous êtes en lui. Parce que la Bible dit qu'en Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'il vous a déjà béni avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous êtes béni. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi comprend trois choses. La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. La plupart des chrétiens, même évangéliques, n'ont pas du tout un problème à dire ou à croire que Jésus nous a rachetés de la mort spirituelle. Pas de problème. Mais quand on commence à dire que Jésus nous a rachetés de la maladie aussi, ils commencent à mettre des points d'interrogation. Ah oui? Mais pourquoi est-ce que ma tante Joséphine est morte avec telle chose? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'est-ce que la Bible dit, et elle est vraie. Amen. Et on n'a pas le temps encore ce matin à chercher les cassettes, écouter le site web, les messages précédents, et vous allez voir que la guérison pour votre corps physique vous appartient en Jésus-Christ. Ça fait partie de l'expiation de Jésus. C'est une chose qui appartient à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu ne marche pas dans la pleine lumière, mais c'est disponible pour nous en Jésus. Et qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que ça va encore plus loin, et c'est que Jésus nous a rachetés, pas juste de la mort spirituelle, pas juste de la maladie, mais Jésus nous a rachetés de la pauvreté aussi. Et tout de suite, il y a des personnes, les points d'interrogation sont encore plus grosses. Pourquoi? À cause des traditions des hommes. Parce que la tradition et la religion nous a enseigné le contraire. La tradition nous a enseigné que plus on est pauvre, plus on est pieux, n'est-ce pas? La tradition nous a montré que si on veut vraiment être proche de Dieu, il ne faut pas avoir grand-chose. Si on veut suivre Jésus, il faut tout délaisser. Il faut donner tous nos biens. Et des fois, c'est vrai. Et moi, je dirais que pour suivre Jésus, il faut que vous soyez prêts à donner tous vos biens. Et des fois, il va vous demander de le faire pour vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'il veut que vous continuiez sans rien? Non, Jésus a dit. Il n'y a pas une personne qui a laissé sa mère, et tu connais le verset, ses frères, les terres et les maisons. Mais il a dit, Jésus, que cette personne va recevoir au centuple. Il a même inclus les terres et les maisons, n'est-ce pas? Dans le fond, c'est une question du cœur. Dieu veut qu'on soit libéré de la peur, de la crainte, et Dieu veut qu'on soit libéré de l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a des personnes qui ont mal interprété ce verset en disant que l'argent est la racine de tous les maux, et ça, c'est pas vrai. On va voir que Dieu a un plan pour vous sur le plan financier. Et cette semaine et probablement la semaine prochaine, on va voir d'autres choses aussi. Mais je veux juste commencer en disant ceci. On veut voir avec clarté, une fois pour toutes, que la pauvreté, c'est la première chose dans vos notes, la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi. C'est clair. On ne peut pas dire autrement. Il est impossible. Il n'y a personne, parce que j'ai lu ma Bible, et je lis ma Bible à tous les jours. Il n'y a pas une personne sur la planète qui peut venir me dire que être pauvre, c'est une bénédiction. Impossible. Être pauvre, ne pas avoir assez, c'est une bénédiction. Jamais. Ça n'a jamais été une bénédiction. Il ne sera jamais une bénédiction. Amen. Pourquoi est-ce que la religion nous a enseigné cela? Parce que le diable, il est très religieux. Amen. Deutéronome 28, 15 dit ceci, et c'est dans vos notes, ou vous pouvez regarder dans votre Bible de préférence. Deutéronome 28, verset 15, on va juste lire quelques parties, parce que c'est trop long de lire tout ce matin. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Souligne ce mot malédiction. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. Et on dit, pas grave, je m'en fais même pas. Peut-être toi, tu parles d'une corbeille, c'est... Mais si on dirait que ton portefeuille et ton compte à banque sera maudit, ça serait une autre affaire, n'est-ce pas? C'est ça un grand problème que nous avons en enseignant la vérité sur la prospérité divine. C'est que on comprend pas le contexte de la parole de Dieu. Souvent, la Bible va parler de multiplier les moutons, vos bétails, vos animaux, le blé de ton champ. La Bible parle de si vous me servez, hein, je vais faire tomber la pluie et tu vas avoir des meilleures récoltes. Et nous, quand on pense au blé d'Inde ou les choses de même, on pense aux moutons, on pense aux chameaux, on pense aux ânes. On pense pas richesse. Mais mettez-vous à la place de ce peuple. Et une personne qui avait des milliers de brebis, c'était considéré riche. Une personne, comment est-ce que la prospérité, qu'est-ce que ça avait l'air à l'époque? C'est pas des personnes qui roulaient en Rolls Royce. Hein? C'est pas les personnes qui avaient, vois-tu, les choses modernes comme nous avons aujourd'hui, mais c'est les personnes qui avaient beaucoup d'animaux. Et qui avaient beaucoup de champs, et dont leurs champs portaient beaucoup de fruits. Amen? Et c'est pourquoi, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez lire dans la Bible, et la Bible, et c'est une vérité, la Bible parle plus des finances et des choses de la prospérité que beaucoup plus que plein d'autres sujets qu'on dit, oh ben, il n'y a pas de question, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais regardez comme il faut. À chaque fois quand ça parle de la multiplication des animaux, la multiplication de vos récoltes, etc., pensez prospérité. C'est comme je dis, on dit ici que ta corbeille et ta huche seront maudites. pas grave. Mais si on dirait que le compte à banque, le portefeuille sera maudit, c'est une autre affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Le fruit de tes entrées, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Vois-tu? Pour nous, c'est pas grave. La plupart de nous ne sommes pas des fermiers. Mais si on dit à un fermier, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites, il dit, oh, ça c'est grave. Ça représente, c'est égal pauvreté. Vous êtes d'accord? Et il dit ici, verset 43, l'étranger, j'ai sauté un verset. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Si on saute jusqu'à verset 38, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et ça coûte d'argent, n'est-ce pas? Ça vaut quelque chose, la semence. Et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne t'oindras point d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils, des filles, et ils ne seront pas à toi quand ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Ça égale malédiction. Est-ce que vous êtes? Ça prend pas un scientifique pour voir que la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi. Amen. Je sais que si vous avez été, si votre cerveau a été lavé par la religion, vous allez avoir beaucoup de difficultés avec ce message ce matin. C'est pourquoi on a fait la déclaration qu'on a faite. Si c'est vrai que la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi, et si Galates 3:13 est vrai, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ça prouve que je suis racheté de la pauvreté. Amen. Et si j'ai été racheté de la pauvreté, je ne suis plus obligé d'être pauvre. Comme je ne suis plus obligé d'être malade, comme je ne suis plus obligé d'être mort spirituellement. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, regardons. Si on commence, on a commencé avec la malédiction, mais là, on va parler de la bénédiction. Et deuxième chose dans vos notes, la prospérité est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis, vois-tu, c'est conditionnel, n'est-ce pas? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et je sais que ce sont des promesses que Dieu a fait à Israël. Il a fait une alliance avec eux, mais savez-vous que nous avons une meilleure alliance basée sur les meilleures promesses? Et que toutes les bénédictions d'Abraham nous appartiennent aujourd'hui. Nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Ça, c'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Verset 2, voici toutes les bénédictions, souligne le mot bénédiction, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait un shop en ville, ou quelqu'un qui était fermier, ou quelqu'un qui était berger, ou n'importe où qu'il soit, en ville, au pays, dans les champs, les bénédictions de Dieu sont disponibles. Bonne idée, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bonne idée. Oui, c'était une très bonne idée. Merci, Seigneur. Numéro 4, verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton sol, pense fermier. Le fruit de tes troupeaux, pense encore comme un fermier. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta job à shop, ton portefeuille, peu importe qu'est-ce que tu as comme source ou moyen de faire de l'argent ou de gagner ton pain, ça sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Wow. C'est une bonne nouvelle d'avoir une corbeille bénie, hein? Numéro 7. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Comment on dit bénédiction? D'être avec toi ou dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est quoi un grenier? C'est une place où on va entreposer en superflu, n'est-ce pas? Le Seigneur sera avec toi, la bénédiction sera avec toi dans tes greniers, dans tes comptes d'épargne même, on pourrait dire. Hein? Dans tout ce que vous faites, tout ce que tu entreprends, la bénédiction sera avec toi. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu voulait que son peuple soit tellement béni? Pour qu'il puisse juste vivre dans le luxe? Non. On ne parle pas de vivre dans le luxe. On va définir c'est quoi la signification d'être riche aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. On va donner une bonne définition tantôt. Ce n'est pas une question juste de vivre dans le luxe et d'avoir des belles choses, d'avoir beaucoup de biens et de bien manger. Qu'est-ce que Dieu veut? Il s'intéresse aux nations. Il a toujours voulu sauver les nations. Amen? Ça a toujours été son plan. En élevant un peuple élu, les Israélites, son plan, c'était de toucher le monde entier. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est que, et c'est clair, verset 10 encore, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Et on voit aujourd'hui, même aujourd'hui, Israël qui n'a pas accepté le Messie, quand même, ils existent sous la protection de Dieu. C'est un petit pays qui exerce une autorité incroyable dans le monde. Ils sont entourés par littéralement des millions de personnes qui veulent rien de plus que de les effacer de la planète. Mais ils ne peuvent pas. Et on sait qu'Israël, c'est quand même un pays qui est connu pour être un pays béni. Le peuple juif sont connus pour être un peuple béni. Ils sont même méprisés. Il y a même des jokes même qui sont faits à cause de ça. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi est-ce qu'ils prospèrent? Pourquoi est-ce que les commerces juifs souvent sont prospères? Parce qu'ils savent, ils comprennent qu'ils avaient une alliance avec Dieu, Jéhovah, Jiré, celui qui pourvoit en nos besoins. Amen. On va continuer. Alléluia. Est-ce que vous voulez un peu plus? Verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? L'Éternel te comblera de bien en multipliant, souligne le mot multipliant, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, pense fermier, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Dieu a promis de bénir son peuple quand il marche dans la lumière de son alliance. Si on ne marche pas dans la lumière de son alliance, on est maudit. Si on marche dans la lumière de ses alliances, on est béni. Amen. Et encore. Là, on parle des bétails, on parle des récoltes. Et ça arrive encore aujourd'hui, savez-vous? Combien de vous avez vu le film Transformation, il y a quelques années? Ça donne, c'est un documentaire sur plus de 4 villes qui ont eu des réveils où jusqu'à 80% de la ville est venue au Seigneur. Il y a une place en Guatemala, c'était une place pauvre. Tout le monde était pauvre. C'est les fermiers qui crevaient de faim presque littéralement. Ils n'avaient presque rien. Ils vivaient vraiment dans la pauvreté. Mais quand ils ont, eux, ce réveil, Et quand les gens se sont repentis et jusqu'à 80% de la population s'est convertie au Seigneur, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Là où ils ont eu les années de sécheresse, la pluie a commencé de tomber. Et on a vu les photos avant et après, et autrefois c'était tout aride et sec, et maintenant c'est tout vert. Et il y a des légumes qui poussent en quantité incroyable, et pas juste en quantité, mais en qualité. Il y a littéralement, on a vu sur la vidéo, les carottes qui sont longues de même et gros comme ça, gros comme le bras d'un homme. Pour vrai? Et on voit les fermiers, les petits messieurs avec les chapeaux de cowboy qui ont acheté des camions Mercedes pour apporter leurs fruits et leurs légumes au marché. Et ils ont tout sur leur camion flambant neuf marqué Gloria a Dios et Gloria a Jesus, les choses de même. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la bénédiction de Dieu qui les a enrichis. Amen. Et si Dieu peut faire tomber la pluie en Guatemala, il peut faire ce dont nous avons besoin au Québec. Vous êtes d'accord? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vois-tu, point final, la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi, mais la prospérité fait partie de la bénédiction de la loi. En fait, Proverbe 10, 22, c'est juste, moi, j'avais vraiment de la difficulté à préparer le message ce matin, pour ce matin. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de choses à dire. Il y a tellement des versets qui nous promettent des choses, qui nous promettent des choses. C'est tellement vaste que des fois, je ne sais pas où que je dois commencer, Seigneur. Donc là, je commence. La semaine prochaine, on va continuer. Et vendredi soir, ça tombe bien, Stéphania commence un cours sur la prospérité selon Dieu pour ceux qui veulent plus. Parce que c'est tellement vaste. Et pourquoi est-ce que c'est important? On va voir dans une minute pourquoi c'est important. Ce n'est pas pour qu'on puisse vivre dans le luxe, c'est parce que Dieu s'intéresse aux nations. Encore aujourd'hui. Proverbe 10, 22 dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qu'est-ce qui est dit dans cette église-là, hein? Qu'est-ce qui est prêche? La Bible. Je viens de lire la Bible. Mais n'est-ce pas vrai qu'on est supposé être pauvre? Non. Mais n'est-ce pas vrai que l'argent, c'est la racine de tous les maux? Non, l'amour de l'argent, oui. On va voir la semaine prochaine. On va exploser les mythes et les mensonges qui nous rendent misérables à propos de la pauvreté et de la prospérité. On va voir vraiment en détail les choses que la religion nous a enseignées. Jésus était toujours pauvre, les apôtres étaient toujours pauvres, Dieu veut qu'on soit pauvre, on ne peut pas être sauvé si on est pauvre. Et on va voir qu'est-ce que la Bible dit pour vrai là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Revenez la semaine prochaine. On va continuer. Deux choses que je voulais juste finir, deux points que je voulais dire pour finir ce matin. C'est que numéro un, Dieu est un Dieu d'abondance. Demandez, Dieu est un Dieu d'abondance. Et si vous comprenez la nature de ton père, de ton papa, ça va t'aider à recevoir et à marcher dans ses bénédictions. Si on regarde Dieu, on sait que même son nom, El Shaddai, El Shaddai, savez-vous, c'est un peu délicat de le dire, mais savez-vous que littéralement, si on regarde dans les Hébreux, qu'est-ce que les érudits ont dit que ça représente plusieurs scènes? Non, c'est vrai. Parce que ça donne l'image d'un Dieu qui est prêt à allaiter, qui est prêt à nourrir sa famille. OK? C'est un Dieu d'abondance. Puis, on regarde ici en Genèse chapitre 1, à la création. On voit le cœur de Dieu, on voit comment il fait les choses. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de regarder les étoiles, essayer de les compter, et on voit tout de suite que Dieu est un Dieu d'abondance. N'est-ce pas vrai? Genèse 1, 20 dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux voient sur la terre vers l'étendue du ciel, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance, on dit en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela a été bon. Mais verset 22 est bien intéressant. La parole de Dieu dit, Dieu les bénit. On parle de marcher dans la bénédiction de Dieu. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. On voit que la bénédiction de Dieu égale multiplication. N'est-ce pas vrai? Si Dieu... La chose est multipliée. Amen. Dieu est un Dieu d'abondance, c'est dans son cœur, c'est dans sa nature. Et même dans les versets dans le Nouveau Testament qui nous donnent les avertissements de se garder contre l'amour de l'argent, de se garder contre la convoitise, même quand, dans ces versets que tout le monde cite, ils oublient de citer le suivant, comme par exemple 1 Timothée 6, 17. La Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Dieu veut être ton Dieu, il ne veut pas que l'argent soit ton Dieu. Amen. Dieu n'a rien contre le fait que tu as des possessions, mais il ne veut pas que tu sois possédé par tes possessions. Et tu devrais être capable, à n'importe quelle minute, quand Dieu te demande de donner tout, de tout donner. Dans le fond, tout ce que j'ai appartient à lui. Il y a des personnes qui ont la difficulté avec la dîme parce que 10%, mais dans le fond, laissez-moi vous dire que 100% de tout ce qu'on a lui appartient. Et on devrait être prêt que le Seigneur me demanderait, donne ton char, donne ceci, donne cela. Il faut être prêt à le faire. Je ne veux pas que les gens commencent à donner leur char à moins que l'Esprit de Dieu leur parle parce que vous serez à pied peut-être, hein, longtemps, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais ici, regarde bien, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Wow, est-ce que tu vois le cœur de notre Père? Dieu nous donne toutes choses avec abondance. Il est généreux. Il est bon. Il est un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En fait, moi, si on est honnête avec nous-mêmes, on voit dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu de trop. Vrai ou pas vrai? Si vous n'êtes pas sûr, lisons ensemble. Psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table. » Et vous connaissez bien le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand Dieu te sert, il te donne trop, ça déborde. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que les autres autour de toi soient trempés. Amen? Quand il remplit ton vaisseau, il veut que tu sois rempli jusqu'à déborder et il veut que ça se déverse sur les autres dans ton entourage. Amen? Ça, c'est le plan de Dieu. Vous dites, mais on n'est pas rendu là. On peut se rendre là. Oui, mais des fois, j'ai des difficultés. Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez jamais les défis. Paul l'apôtre, il y avait des moments quand il était naufragé, quand il était sur l'île de Malte, etc., où on pourrait regarder et dire, il avait faim, il était nu, il n'avait rien. Mais dans le fond, il était encore riche. Parce que toutes les promesses de Dieu, et Dieu a quand même pourvu à tous ses besoins. Hein? Alléluia. Regardons encore l'histoire de Jésus, Marc chapitre 6, 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et en levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Savez-vous que c'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie? Vous dites, mais j'ai pas grand chose. Remettez ce que vous avez à Dieu. Il va prendre ça entre ses mains. Il va bénir ce que vous lui avez prêté et donné. Et il va le redonner à vous, et vous serez capable de le distribuer aux foules. C'est comme ça que ça marche. Oui, oui, c'est comme ça que ça marche. D'habitude, on dit non, c'est pas comme ça que ça marche, mais cette fois-ci, oui, oui, c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous mangèrent et furent
rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes et les enfants. Voici, Dieu est un Dieu de trop. Pierre, quand il a fait le pêche miraculeux, il a jeté le filet, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Dieu est un Dieu de trop. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai pas assez? Peut-être parce que vous avez cru au mensonge que Dieu veut que vous ayez juste assez ou pas assez. Ou, comme on va voir dans les semaines à venir, peut-être il y a certaines choses que vous n'avez pas encore compris comment activer les principes de la prospérité. Certaines choses oui, certaines choses non. Il y a des choses qu'on peut faire pour activer ces choses dans notre vie. Amen. Donc Dieu est un Dieu d'abondance. Et juste pour terminer ce matin, je veux souligner le fait que Dieu veut que tous ses enfants vivent dans l'abondance. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu veut que tout le monde dans sa famille soit millionnaire? Non. Je pense que ça serait comme ridicule de penser que tout le monde est supposé d'être millionnaire. De un, laisse-moi juste reculer un peu. Je pense qu'une des raisons pour laquelle on a moins des personnes prospères dans les églises, c'est parce que nos cœurs ne sont pas droits devant nous. C'est parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui aiment l'argent. Et Dieu est capable de leur accorder juste assez parce qu'il sait que s'ils commencent à en avoir trop, leur cœur va se détourner de lui et fixer sur les biens. C'est vrai, être béni, c'est dangereux. Savez-vous que c'est dangereux des fois d'être béni? C'est dangereux pour une personne qui n'est pas spirituelle. C'est dangereux pour une personne qui ne comprend pas le but et la raison pour laquelle Dieu veut nous bénir. Mais une personne qui comprend pourquoi, une personne, c'est la même chose pour la guérison divine. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et plus tard, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos plaisirs. Il y a des personnes qui sont malades. « Oh, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. » Mais dans le fond, c'est parce qu'il veut se sentir en forme pour aller au bar vendredi soir. Amen. Ils vont tomber très religieux. « Oh, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison. » Dès qu'il se sent mieux, « Oh, je vais aller au bar. » Est-ce que ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'il reste malade? Non! Dieu veut qu'il soit spirituel et guéri et en santé. Et oui, il y a des personnes qui vont commencer à recevoir l'argent, ils vont dire, hey, je sais qu'est-ce que je vais faire. Et commencent à tomber en amour avec l'argent. Ils veulent s'enrichir. Ils cherchent à s'enrichir plus qu'ils cherchent le royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, cette personne-là n'est pas capable de, on peut dire, supporter les richesses. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui d'être béni? Non! Dieu veut qu'il soit spirituel. Amen? Alléluia! Est-ce que je peux continuer 5 minutes de plus? Alléluia. Qui me donnerait 5 minutes? Non, 5, 10, 15, 20, 25. Moi, je crois que c'est important les choses que nous voyons, n'est-ce pas? Dieu veut que tous ses enfants vivent dans l'abondance. Jésus l'a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham, Genèse 2, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai », et on sait que ça comprend, c'est pas uniquement, mais ça comprend la bénédiction matérielle, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Moi, j'ai fait toute une série il y a quelques ans, « Béni pour bénir ». Tout le monde dit, « Je suis béni pour bénir les autres ». Alléluia, alléluia. C'est pourquoi Deutéronome 8, 17 dit ceci. Je lis les choses qui sont dans vos notes, juste pour sauver du temps. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les accueillir. C'est Dieu qui te donne la force pour accueillir quoi? Plus fort, s'il vous plaît. Dieu te donne la force pour accueillir les... Dieu te donne la force pour accueillir les... Pourquoi? Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, Dieu veut te faire prospérer pour qu'il puisse établir son alliance. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et laissez-moi vous dire, ça va prendre des sous pour faire la volonté de Dieu. Amen? C'est. Hein? On a des personnes, elle est supposée d'aller en Pérou. Elle voulait aller en Pérou. Je sais, hein? Ça prend de l'argent. Je pense 2 000 $ pour mardi. En mille. 1 000 $ pour mardi, sinon elle ne peut pas aller. Oh, 1 000 $ US. Elle a reçu un peu. On a reçu une offrande une fois en mercredi soir. Elle a ramassé. On a eu 100 $ de données. Elle a quelques autres personnes qui ont donné et ils travaillent fort pour la ramasser. Mais je sais une chose. À date, elle n'a toujours pas son 1 000 $. Si vous avez à cœur de faire quelque chose, faites-le. Je ne sais pas, j'ai à cœur de dire ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est juste un exemple. Il y a des personnes qui veulent aller, qui sont prêts à quitter le pays, qui sont prêts à aller faire la volonté de Dieu, mais ça, on ne peut pas arriver au comptoir à l'aéroport de Pierre-Éliott Trudeau, autrefois d'Oral, en disant, bon, je suis missionnaire, je veux me rendre en Pérou, je veux me rendre en Afrique, donne-moi un passe-partout. Il dit, OK, je vais te donner un passe-partout, donne-moi ta carte de crédit. Vous me suivez? Alléluia. Pourquoi je dis tout cela, mais c'est bon quand même. Alléluia. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous savez, 2 Corinthiens 8:9, lisons ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et on dit, oh, mais ça c'est spirituel. Lisez le contexte, s'il vous plaît, de ce passage. Tout ce passage parle d'argent. Tout ce passage parle des offrandes pour les pauvres. Tout le contexte. Hein? Paul, un an avant, a demandé aux églises de se préparer pour une collecte spéciale pour les pauvres, pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Et là, il écrit aux Corinthiens ici pour leur dire, « Bon, je vais envoyer quelqu'un bientôt, soyez prêts. » Soyez prêts avec votre offrande. Je ne veux pas avoir honte. Lisez ce qu'il a dit. Il faut que vous soyez prêts avec l'offrande quand j'arrive. Ça, c'est le contexte. Il a dit, vous savez, Jésus qui était riche, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Je vais dire quelque chose qui va peut-être, ça va être comme un choc. Mais là, je vais expliquer, vous allez dire, oh, OK. Mais dans le fond, si on lit la Bible comme il faut, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, ce n'est pas d'être millionnaire, mais c'est d'être riche. Ôtez de votre tête l'idée de c'est quoi un riche. Quelqu'un qui roule avec son gros char et tout cela. C'est quoi un riche? Riche veut dire tout simplement pleinement approvisionné. Et on lit, on va finir avec ce verset-là. 2 Corinthiens chapitre 9. Chapitre suivant, qu'est-ce qu'on vient de lire? Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, comment on dit abondamment, moissonnera abondamment. Dieu veut vous donner abondamment, mais afin de vous donner abondamment, il faut que vous coopériez avec lui, il faut que vous semiez abondamment. Hein? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Encore, même contexte, on parle de ces offrandes volontaires. Et Dieu peut vous combler. Nom de notre Église, n'est-ce pas, la vie comblée? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, et voici la partie que je veux que vous saisissiez, possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore un... Quoi? Encore une fois? Vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera. C'est un Dieu d'abondance et de multiplication. la semence et il augmentera les fruits de votre justice, vous serez de la sorte, quoi? Enrichi. Dis ça encore. À tous égards, pour toute espèce de... Pour toute espèce de... Par notre moyen... Pardon. Vous serez de sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de liberté qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vois-tu? Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église du Nouveau Testament. D'avoir toujours de quoi satisfaire leurs besoins. Avec un superflu pour faire quoi? Participer à toutes sortes de bonnes œuvres. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire monter devant Dieu toutes sortes d'actions de grâce. Oh, gloire à Dieu! Donc, on sait qu'on n'est pas rendu là, tout le monde. On sait qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir de l'aide. Et ça, c'est normal, c'est correct. On ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas encore rendu là que vous êtes fait. Non, vous pouvez commencer là où vous êtes, vous sommez qu'est-ce que vous avez, vous faites confiance à Dieu dans la situation telle qu'elle est maintenant, et vous allez voir au fur et à mesure, le Seigneur va multiplier, et il va vous augmenter, et il va vous enrichir. Et si le Seigneur est capable de le faire passer à travers vous, il va le livrer à vous. Et souvent, il donne les tests, et il commence à te donner telle chose. Et puis, il te demande de faire quelque chose pour bénir quelqu'un d'autre ou de soutenir une bonne œuvre avec. Et si tu le fais, il dit, bon, ça c'est une personne digne de confiance. Je vais fournir de la semence au semeur. Ça c'est une personne qui aime semer. Mais si une personne reçoit de la semence de Dieu, il mange tout, il dit, je ne vais plus lui confier de la semence parce qu'il mange tout. Mais lui, il va manger un peu comme il faut, il va manger bien, il va être rassasié. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de mal de vivre bien, de vous habiller bien, de rouler dans une belle auto et de vivre dans une belle place. Il n'y a rien de mal là. En fait, au contraire, je crois que c'est ce que Dieu veut. Amen. Mais si c'est ça ton seul but, et si tu aimes ta maison, ton auto et tes habits plus que tu aimes Dieu, il y a un problème. Mais Dieu veut que nous ayons toujours de quoi satisfaire nos besoins avec un superflu. Pour participer à du bonheur. Et la semaine prochaine, on va démystifier des choses, les mythes, les mensonges qui nous empêchent de vivre dans cette abondance. Et peut-être même une semaine après, je ne sais pas encore, mais on va voir des choses pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer la vie abondante dans notre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Des choses pratiques. C'est conditionnel. C'est conditionnel. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Amen. Alléluia. Bonne nouvelle. Dieu veut qu'on va de l'avant et il veut qu'on aille plus haut en lui. Dieu a une vision de son Église qui est en vie spirituelle, en communion avec Dieu spirituellement, au diapason de l'Esprit Saint, mais qui marche dans un corps qui est libéré de la maladie, qui est assez en forme pour aller faire du ministère aux autres, pour aider les autres, et aussi un corps qui n'est pas encore mendiant, mais encore qui est encore donnant. Comme Alice a dit aujourd'hui, on va acheter des bouteilles d'eau. On ne va pas le charger pour ça. Il y a d'autres choses, bien sûr. On va charger pour certaines choses parce qu'il faut couvrir nos frais. Il n'y a aucun problème là. Mais nous aussi, on veut donner. On ne veut pas toujours avoir l'image, oh, les églises sont pauvres, et les églises, toujours, ils demandent juste l'argent. Amen. On veut aimer Dieu plus qu'on aime l'argent. Mais si on aime Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous serez bénis et vous serez capable de bénir les autres. Vous dites, oh, je n'ai pas encore là. Vous pouvez y arriver. Tout le monde. Convaincu. Je n'ai pas dit que tout le monde va devenir millionnaire. Je n'ai pas dit que tout le monde va vivre au même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau d'onction pour faire du ministère. Tout le monde n'a pas le même niveau de prospérité. OK? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont appelées de Dieu. Ils ont même un don de donner. Et ces personnes vont avoir peut-être littéralement des millions et des millions de dollars. Peut-être pas vous. Mais vous devrez avoir quand même assez pour payer votre loyer, votre maison, votre hypothèque, payez votre transport, payez votre nourriture, achetez les vêtements, faites des choses pour vous faire plaisir, vous détendre à l'occasion, mais premièrement, donnez à Dieu les prémices et aussi donnez les offrandes et aidez les œuvres missionnaires. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. Midi moins 10. Est-ce que vous êtes content que j'ai pris 5 minutes de plus? Peut-être c'est 9. On va se lever debout, on va prier. Ce sont des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde entier qui attend l'Évangile. Il y a des personnes dans notre entourage, alléluia, qui ont besoin de se voir la puissance de Dieu. La puissance de guérison. Je pense que la puissance de guérison, c'est une bonne publicité pour l'Évangile. Est-ce que vous êtes d'accord? Laisse-moi vous dire une autre chose. La puissance pour accueillir les richesses dans le bon sens. Je ne parle pas des choses extravagantes. Mais quand le monde va voir un peuple qui bénit, qui paie ses affaires, mais qui donne, qui est généreux, ils vont dire, ça c'est vraiment quelque chose. Hein? Sûr et certain, c'est plus attirant que de voir une église qui est toujours méprisée, qui est toujours mendiante, qui a toujours pas assez. Amen. On est la vie comblée. Jésus veut qu'on ait une vie abondante. Il veut qu'on marche dans une communion abondante. Une santé divine qui est abondante. Et une prospérité qui est abondante aussi. Seigneur, au nom de Jésus, merci. On a prêché ta parole ce matin. Des choses qu'on ne prêche pas toutes les semaines. Des choses qu'on n'est pas toujours habitué à entendre. Mais c'est quand même ta parole. Et Seigneur, c'est une parole importante pour l'heure que nous vivons. Avec tous les yeux fermés, j'aimerais, parce que moi j'ai fait un engagement devant vous et devant le Seigneur, qu'à chaque dimanche, s'il y a des personnes ici présentes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, que je vais donner une occasion, une invitation pour eux de venir à Jésus et recevoir la vie éternelle. Donc si on peut être vraiment, vraiment sensible, ce n'est pas le temps de bouger, ce n'est pas le temps de faire du bruit, ce n'est pas le temps de partir. À moins que c'est vraiment une urgence. Si vous avez besoin d'aller travailler, les choses de même, on comprend, mais faites ça doucement, sans déranger le monde. Mais c'est simple, qu'est-ce qu'on fait? Et ça prend une révérence, surtout quand on fait un appel. C'est la destinée éternelle des gens. Ce n'est pas le temps juste de partir parce qu'on veut être le premier à arriver au restaurant. Donc, Seigneur, au nom de Jésus, je prie que s'il y a des personnes ici présentes qui ont besoin de te connaître, que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur pour leur montrer que tu les aimes. Tu les as rachetés de la mort spirituelle, de la maladie et de la pauvreté. Avec tous les yeux fermés, je demande, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, pasteur, j'ai besoin de donner mon cœur à Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi. Je veux accepter le don gratuit de Jésus. Je veux être sûr et certain que si je mourrais, que j'irai au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je lève la main, quelqu'un qui a besoin de connaître Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, on va prendre juste une minute. Sois pas craintif. N'aie pas peur. Sinon, peut-être que le monde ici a déjà reçu Jésus. Je vais prier une prière dans une minute et vraiment, je veux que vous vous rappeliez de ce qu'on a dit avant le message. La parole qu'on a prêchée, c'est une semence incorruptible. Chassez les oiseaux quand ils viennent. Fais sûr et certain qu'il n'y a pas des épines ou des roches dans la terre de ton cœur. Mais reçois et arrose. Et laisse briller les rayons de l'Esprit Saint sur cette terre et ça va continuer à pousser. Tu ne verrais peut-être pas du jour au lendemain les changements. Des fois, ça prend du temps. Ça a pris des années pour que tu apprennes à penser pauvreté. ça va prendre du temps pour apprendre, reapprendre à penser abondance. Donc, merci Seigneur Jésus que ta parole est vraie. Alléluia. Donc, prie avec moi. Père Céleste, nous avons vu aujourd'hui que la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi. Mais tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Donc, je suis racheté de la pauvreté. La prospérité m'appartient. Et si je marche dans la lumière, comme tu es dans la lumière, je vais avoir toujours de quoi satisfaire mes besoins, avec un superflu pour participer à tout bonheur. Au nom de Jésus. Alléluia. On va chanter un dernier chant.